Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée, un bon vendredi, sous la pluie, mais un jour, le soleil reviendra. Et quand je regarde les radars d'Environnement Canada, ce serait vers les alentours de mardi prochain. Donc, on lâche pas. Puis d'ici là, on essaie d'occuper notre temps du mieux qu'on peut. Et c'est le cas ce soir pour moi, puisque j'ai le plaisir de recevoir un invité que j'ai côtoyé sur les réseaux sociaux, mais c'était juste d'un côté. Je le regardais aller, je regardais les choses qu'il avait à dire. J'ai été voir ses capsule qu'il a rendu disponible sur YouTube. C'est un conférencier. Son nom, c'est Patrick Leroux. Salut, Patrick!
Allô, allô, comment ça va, Yannick?
Ça va très bien. Merci de nous donner un petit peu de ton temps. C'est un honneur de te recevoir. T'as fait quoi? Combien de conférences depuis que t'es dans ce merveilleux monde-là?
Ça fait un petit bout. J'ai commencé en 96 de façon professionnelle. J'ai donné plus de 2000 conférences un peu partout, aux quatre coins de la planète, mais principalement au Québec, là, à 80%. Là, j'ai eu la chance d'aller en Europe, d'aller sur même des bateaux de croisière. Donc, j'ai eu la chance de vivre mon rêve, d'inspirer les gens là, à améliorer la qualité de leur vie au niveau personnel et professionnel. Aujourd'hui, je suis plus coach d'affaires en ligne,
oui.
Mais je suis encore conférencier. Au lieu d'en faire 120 par année, j'en fais une douzaine par année aujourd'hui.
T'en fais une douzaine par année, donc j'imagine que ta qualité de vie familiale s'est grandement améliorée.
C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le virage. Il y a à peu près 7 ou 8 ans de ça, je suis arrivé un beau jour à la maison. Ma fille Jade, elle avait seulement 3 ans à l'époque, Kim 2 ans. Mais j'ai quand même eu des enfants assez tard.
Ouais.
Et j'avais un stretch de conférences, 10 conférences en à peu près 12 jours aux quatre coins du Québec, au Nouveau-Brunswick. Puis après 4 jours, j'arrive le soir, je rentre à la maison, je m'ennuie, je pars de plus en plus de reculons. Parce que tu sais comment c'est quand tu as des jeunes enfants. J'arrive à la maison et je tends les bras pour prendre ma fille de 3 ans dans les bras de ma femme. Puis cette dernière refuse que je la prenne. Non seulement elle refuse que je la prenne, elle enfouit son petit visage dans le cou de ma femme, puis elle fait un mouvement avec son épaule en voulant dire « touche-moi pas ». Alors, évidemment, j'ai commencé à pleurer. La femme, j'ai vu les yeux tout pleins d'eau. Ma femme a vu le désarroi dans mon visage, puis elle me dit « inquiète-toi pas, les enfants sont comme ça, à bout, ça fait une couple de jours qu'elle t'a pas vu, puis d'ici une heure, vous allez jouer tous les deux à quatre pattes à terre ». Et c'était le cas, là. Une heure après, on était correct, puis ouais. Je pouvais jouer avec ma petite fille. Mais pour moi, ça a été un point tournant. Puis il y a bien des gens, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi, qui ont déjà vécu un point tournant comme ça dans leur vie. Moi, c'est un point tournant. Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé, puis je me suis posé la question, comment je pourrais monétiser mon expertise sans toujours être parti sur la route. Ce que les gens ne savent pas, là, quand tu es conférencier, on est payé pour une conférence d'une heure, une heure et demie, mais souvent, on est parti 24, 36 heures sur la route. Alors, quand j'ai des jeunes enfants, puis je faisais 100, 120 conférences par année, j'étais tout le temps parti. Alors, il y a quelques années, j'ai fait le virage, puis aujourd'hui, j'aime encore faire des conférences, mais au lieu d'en faire 120 par année, j'en fais une douzaine, et je suis parti de la maison, je suis coach d'affaires, j'aide les experts, les coachs à monétiser leur savoir avec des programmes d'accompagnement en ligne.
T'es un gars de quel endroit, toi, Patrick?
Ça, c'est une question. Je suis né à Québec, à Charlebourg, mais j'ai pas vécu longtemps, jusqu'à l'âge de 2 ans. Par la suite, j'ai grandi à Drummondville pendant 7 ou 8 ans. On a habité 2 ans au Lac-Saint-Jean. J'ai habité à Lauzon, sur la Rive-Sud, pendant 5 ans, début d'adolescence. Puis après ça, mon père a déménagé dans la région de Montréal. En fait, il était dans construction. Fait que c'est ce qui arrive quand tu es dans construction, tu déménages d'un chantier à l'autre. Il était électricien, fait que j'ai déménagé. J'ai resté un peu partout au Québec. J'ai même eu la chance d'étudier à Amsterdam pendant 6 mois pendant que j'étais à l'université. J'ai fait un échange étudiant. Je voulais améliorer mon anglais.
Okay.
Fait que j'ai habité un peu partout. Aujourd'hui, je suis à Saint-Sauveur dans les Laurentides.
Est-ce que tu as réussi à améliorer ton anglais à Amsterdam pour de vrai?
Grandement. J'ai même appris In Bier Alsjeblieft, Dankjewel, qui est en hollandais, qui veut dire une bière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ben, c'est très difficile, hein, le hollandais. Mais oui, là-bas, pendant 5 mois, immersion totale, tu n'as pas le choix. Là, mon roommate, il s'appelait Remco. Il parlait 5 langues. Là-bas, ça parle plein de langues. Fait que je suis revenu là-bas là, parfaitement bilingue. Là. C'était un peu le but de ça.
Okay. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire de ta vie, conférencier? Parce qu'on a à peu près la même âge, toi et moi. Moi, quand j'étais jeune, ça n'existait pas.
Jean-Marc Chaput.
Il y avait Monsieur Chaput que je voyais passer une fois de temps en temps, mais sinon, c'était pas mal le seul à l'époque, quand on était jeune, toi et moi, au secondaire.
Moi, j'étais à l'université, j'ai fait un bac en marketing et j'ai commencé à acheter, j'écoutais un info commercial le soir, là. C'était Tony Robbins qui commençait, c'était en 1989, et j'avais acheté ses cassettes à l'époque, hein, ça ne nous rajeunit pas, j'avais acheté ses cassettes, ça s'appelait Personal Power, et je mettais tellement d'énergie, d'attention à écouter ces cassettes-là, ça me faisait tellement de bien parce que j'étais d'être quelqu'un d'assez timide, qui manquait de confiance en moi, comme bien des jeunes, dans le fond, là, quand j'avais cet âge-là. Et ça m'a tellement aidé, ça, que je me suis dit, hey, peut-être qu'un jour, je pourrais faire ça, mais j'étais ben trop jeune, j'avais zéro crédibilité. Mais toutes ces cassettes de motivation-là, par la suite, ça a été des livres, hein, ma tante Huguette, mon oncle André, qui était dans Amway, là, qui m'ont donné un paquet de livres de développement personnel, puis j'ai commencé à gober ça. Et j'ai parti plusieurs petites entreprises étant très jeune, avant l'université et même après l'université. Et quand j'ai tourné l'âge de 25 ans, j'ai commencé mon métier de conférencier professionnel, je me sentais assez légitime. Ça faisait quand même 7-8 ans que j'avais commencé des business et tout ça. Et ben, en fait, c'était pas vraiment conférencier, c'était plus formateur dans le domaine de la vente quand j'ai commencé vers 25 ans. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai 53 et j'en fais encore, j'adore ça, ouais.
Au début, est-ce que tu te faisais dire « tu sors d'où, toi? Pourquoi, moi, je t'offrirais un contrat à toi? »
Au début, c'était tellement drôle. Je rentrais dans des salles comme ça, puis les employés, surtout les plus vieux, ils étaient en arrière, les bras croisés, puis ils réagissaient pas, là. Puis ça me prenait à peu près 45 minutes, une heure avant de les gagner, puis de les voir interagir, lever la main, puis poser des questions. Puis à la pause, souvent, ils venaient me voir, puis ils me disaient ça. Ils disaient, moi, là, je vais t'avouer, Patrick, quand je suis arrivé au sorti, je t'ai vu à la face, là. Je pense que t'es plus jeune que mes enfants. Qu'est-ce que je vais apprendre de ce kid-là? Alors, il y avait beaucoup de réticence. Donc, je devais parler de l'éléphant dans la pièce quand je commençais mes conférences. Puis je disais d'ailleurs, j'ai dit, y en a-tu ici qui ont l'impression que je suis plus jeune que leur enfant puis apprendront rien aujourd'hui? Donc, j'utilisais de l'humour un petit peu. Puis aussitôt que je leur donnais du contenu qui était facilement applicable dans leur travail, puis je faisais un lien avec ce qu'ils faisaient, puis qu'ils prenaient des notes, bien là, j'ai gagné. Fait que là, l'âge était plus important à ce moment-là. Mais oui, effectivement, beaucoup de réticence à mes débuts.
Mais il y a toujours cette peur-là du sentiment d'imposteur, d'arriver dans un endroit, puis de montrer tes propres techniques à toi, à des gens qui font ce métier-là depuis des années, des années. Tu sais, à un moment donné, faut pas l'écouter, cette petite voix-là qui dit « Patrick » ou « Yannick » dans mon cas. T'es-tu sûr que de ce que tu fais? Est-ce que les techniques que tu essaies d'apprendre, c'est-tu des techniques qu'ils savent déjà? Est-ce que ça sert à quelque chose? T'sais, cette petite voix-là qui te dit « ben tu vaux peut-être pas la peine devant
le fameux syndrome d'imposteur.
Moi,
j'adressais ça au début. Je lui disais, aujourd'hui, là, je vais vous partager des idées. La plupart des choses que je vais vous dire, vous le faites déjà, puis continuez à le faire. Puis il ne s'agit pas de mettre de côté ce que vous faites bien puis qui marche, mais peut-être que si vous apprenez juste une idée aujourd'hui, ça va faire une différence dans votre vie. Puis je me sentais quand même assez solide. J'ai travaillé 2 ans chez Coca-Cola quand j'ai fini mon bac en marketing. Puis j'avais des résultats exceptionnels chez Coca-Cola. J'avais parti plusieurs petites entreprises. J'ai eu des tripoteurs de crème glacée, j'ai eu des machines à bonbons. J'ai eu plein de petites entreprise. J'ai eu 104 employés quand j'avais 19 ans. Donc, je me sentais quand même assez solide. Là, t'as un petit peu, là, 104 employés, il y avait un gros taux de roulement. Là. Il y en a qui restaient une journée ou deux. Là. J'ai payé la commission. Hein. Les jeunes, il y avait 20% de commission. Il y avait des triporteurs de crème glacée. J'avais 14 triporteurs. Ils revenaient le soir, puis il y avait 20% de commission plus leur type. Puis des fois, généralement, il y avait entre 20 et 30 $ de type. Des fois, il n'y avait même pas de type. Je disais, ouvre ta bouche, par exemple. Il y avait la langue bleue. Il avait mangé 14 fantômes durant sa journée. Des fois, il fallait gérer les réveils le matin. Donc, 104 employés, là, c'est le nombre d'employés que j'ai eu durant un été. Mais j'en avais une moyenne, une vingtaine en général. Mais tu sais, j'avais quand même une solide expérience. Fait que quand je parlais puis je donnais des exemples, c'était crédible. Là. Mais oui, le syndrome de l'imposteur, ceux qui commencent dans quelque chose, c'est tout à fait légitime de l'avoir. L'important, c'est de s'adresser à des gens qui sont plus débutants. Alors, comme ça, tu as déjà 3-4 longueurs d'avance sur ces gens-là. Tu sais, juste lire 3 livres sur un domaine particulier, t'en sais plus qu'à 90% de la population. Fait que t'as pas besoin de te sentir là un imposteur. Tu vas juste aider des gens qui sont juste un peu en arrière de toi. Donc, toi, tu as quelques longueurs d'avance, ces gens-là. Ouais. Tu as juste à pas viser les gens qui sont des experts, puis tu es correct aussi. Puis au fur et à mesure, tu vas prendre de l'expérience, tu vas gagner de la confiance. Puis tu pourras, si tu veux un jour, t'adresser à des gens qui sont plus expérimentés. Mais au début, on s'adresse juste aux débutants.
Il y a des gens qui nous écoutent qui sont des hommes et des femmes d'affaires. Il y a des gens qui peuvent être sur la route présentement, qui sont des camionneurs et tout ça. Est-ce que tu as toujours été workaholic dans l'âme? Ce qui fait en sorte que dans les dernières années, ben, tu le savais que tu étais comme ça, puis tu t'es dit, quand tes enfants sont arrivés, bon, moi, j'aime travailler fort 7 jours sur 7, mais là, à un moment donné, il faut que je mette mes priorités aux bonnes places. As-tu été la transition? Est-ce que ça a été facile? Moi, en travaillant dans les médias, je suis toujours en contact avec des hommes et des femmes d'affaires, puis pour la plupart, il y en a qui vont dire, quand on regarde le train de vie de ces gens-là, « Ah, mais ils sont chanceux. » Moi, je vois souvent l'envers de la médaille, des gens qui travaillent extrêmement fort des fois, puis quand tu calcules leur salaire, ils sont quasiment sous le salaire minimum, puis c'est leurs employés gagnent plus cher qu'eux. Eux autres, faire la transition à « je travaille beaucoup 7 jours sur 7 » à « ma blonde est sur le point de me laisser, mes enfants ne me reconnaissent plus », ça doit être ça doit être un step qui doit être difficile à franchir.
Bien, c'est sûr que la naissance des enfants, ça a été un changement pour moi. J'ai toujours aimé travailler, puis dans mon cas, c'est une passion. Puis il y a bien des entrepreneurs qui nous écoutent qui vont dire la même chose. J'ai pas l'impression de travailler. Moi, je tripe sur ce que je fais, puis c'est vrai. Sauf que tu peux négliger des relations, tu peux négliger ta santé. Ça, je l'ai fait également. Et à un moment donné, tu prends conscience de ce qui est important. Moi, le premier bouquin que j'ai écrit s'appelle « Secret des gens actifs, efficaces et équilibrés ». Beaucoup des gens se reconnaissent, sont actifs, sont efficaces, mais ils manquent totalement d'équilibre. Tu sais, des semaines de 70-80 heures. Et là, il arrive des épreuves dans la vie qui font en sorte qu'ils prennent des décisions. Soit, comme tu dis, ta femme te menace de partir, par exemple. Il y en a qui ont des enfants, puis là, oups, je connais quelqu'un, je n'aimerais pas son nom, à un moment donné, oups, son enfant s'est fait pogner à voler quelque chose, puis là, il se ramassait en prison parce que là, avec du recul, elle dit, je n'étais pas là pour lui, je ne m'en suis pas occupé. Il peut y arriver un cancer, une maladie, il peut arriver toutes sortes d'affaires qui font en sorte qu'à un moment donné, tu revises un peu tes priorités. Puis dans le livre, ce que je parle, c'est d'établir tes valeurs. Hein. C'est pas, t'sais, le bonheur, c'est quoi? C'est de posséder en abondance ce qui a le plus de valeur pour soi. Fait que si tu vis en accord avec tes valeurs au quotidien, tes actions, ton style de vie, puis t'en as beaucoup de tout ça, de tes valeurs, parce que c'est différent d'une personne à l'autre, tu vas être heureux. Mais tes valeurs changent, évoluent dans la vie, notamment à la naissance d'un enfant, et là, tu prends conscience de ce qui est important. Il y a beaucoup de gens là qu'on dirait que leur but, là, c'est d'être la personne la plus riche du cimetière. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, mais ils n'ont pas pris le temps de bien profiter de la vie. Hein. Ils ont plein d'argent, mais ils n'en profitent même pas de la vie. Ils ne vont même pas en vacances, ils ne vont pas dans un restaurant, mais ils ont plein de cash. À quoi bon? Alors, il faut avoir un équilibre entre les deux, je pense.
Je vais faire mon boucard diouf que j'aime bien. Mon grand-père me disait toujours, tu nais tout nu, tu meurs tout nu.
Oui, tout à fait. Puis on n'est juste... pas là longtemps, puis il faut en profiter, Colin. Ouais. Fait que oui, travailler, c'est important, mais moi, je prône beaucoup l'équilibre. D'ailleurs, c'est ma valeur numéro un dans la vie. Fait que l'équilibre, c'est quoi? C'est de, oui, de se réaliser au travail, hein, faire quelque chose qu'on aime, c'est hyper important. C'est de prendre soin de sa santé. D'ailleurs, j'ai fait un virage, comme je te disais d'entrée de jeu, tantôt, j'ai 53 ans, et je commence à réaliser qu'il en reste un petit peu moins qu'il en restait. Et si je veux vivre vieux, puis surtout en santé, il faut que je prenne mieux soin de ma santé. Alors, j'ai arrêté de boire au mois de janvier. Je me suis lancé un défi de 30 jours, là, ça fait 5 mois, puis ça fait 5 mois que j'ai pas pris une goutte d'alcool. Et puis juste avant ça, dans l'année suivante, j'ai fait un test pour savoir combien que je consommais d'alcool. J'ai eu une application, puis à tous les jours, je marquais combien de consommation d'alcool que je prenais. Des jours, j'en prenais pas, des jours, j'en prenais 4-5, mais j'en prenais 2 par jour en moyenne. Okay. C'est pas énorme, mais au fin de l'année, c'est énorme, là, c'est plus de 700 consommations. Fait que j'ai dit, OK, je me lance un défi. TikTok m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup écouté des vidéos comme de quoi l'alcool, c'est un poison, blablabla. Ben, je le fais 30 jours, je l'ai déjà fait. Fait que on va voir le résultat. Puis là, ça fait 5 mois, et puis j'ai pas touché à l'alcool. Le mois passé, au mois de mai, j'ai fait un 30 jours détox sans sucre, sans carbs. En fait, c'est une diète carnivore qu'on appelle. J'ai juste mangé de la viande pendant 30 jours, j'ai perdu 22 livres. Je me sens tellement bien, tout dégonflé. Fait que quand j'étais jeune, là, je m'en foutais de ça, là. Mais quand tu vieillis, tu prends plus conscience de ta santé. Et là, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer non seulement mon espérance de vie, mais une espérance de vie qui est en santé. Et là, tu te fixes des objectifs comme ça. Puis moi, j'aime ça, les défis. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui nous écoutent là, qui aiment ça. Là. Tu peux nous faire n'importe quoi en 30 jours. C'est trop dur de dire, OK, moi, j'arrête de boire pour le restant de ma vie. Non, attends un petit peu. On commence par 30 jours, je vais voir les résultats. Puis si j'aime ça, je continue. C'est un peu la même chose. Tu sais, la diète carnivore, je l'ai fait 30 jours. Là, j'ai commencé à réincorporer des petits fruits, des légumes à faible index glycémique, par exemple. Je vais éviter quand même les carbs. Sauf avant mes 2 matchs de tennis, parce que j'en ai vraiment besoin. Là, je joue 2 heures, puis j'ai besoin d'énergie. Mais sinon, je vais essayer d'éviter le plus possible tout ce qui est sucre, les aliments transformés, et ça fait une différence dans la vie. Fait que, à ton contact, moi, je pense que tu es capable d'inspirer des gens. On est tous des leaders, et il ne s'agit pas de changer le monde, puis moi, la politique, je me tiens loin de ça. Mais si à ton contact, les gens de ton entourage, ta famille, tes amis, tes collègues de travail sont inspirés à changer également leur vie, bien, tant mieux. Puis je pense que c'est ça la meilleure forme de leadership, c'est montrer l'exemple.
Mais c'est ce que j'aime dans toutes les petites choses que tu as observées puis que tu as décidé de changer, c'est la lutte constante entre ton corps et ton cerveau. C'est de faire gagner ton cerveau plutôt que de te faire gagner ton corps. Je regardais une émission, écoute, je serais pas capable de te nommer le nom, mais les auditeurs qui nous écoutent, qui sont passés sur ce docu-réalité-là, ils vont se souvenir, c'est sur Netflix, c'est disponible. On prend des gens qui ont certaines facultés de survie en forêt, puis on les envoie dans le nord du Canada. Mm-hmm. Et ces gens-là sont capables au départ d'établir leur campement de base, leurs ressources et tout ça. Mais au fur et à mesure que les saisons avancent, l'hiver qui arrive, les denrées deviennent de plus en plus rares, puis ils doivent trouver d'autres techniques pour réussir à chasser et tout ça. Puis dans une des émissions, il y a une dame qui m'a fait réaliser quelque chose, puis je ne sais pas si elle l'a dit intentionnellement, mais elle a dit « mon cerveau était prêt à rester jusqu'à la fin, mais mon corps est en train de me lâcher. mon cerveau me dit d'arrêter parce que ça peut être dangereux pour moi. Et là, j'ai commencé à écouter plein de choses par rapport à ça. Puis, je me rends compte que trop souvent, on écoute plus notre corps que notre cerveau. Puis parfois, ça peut être bon d'écouter notre corps, bien entendu, là, mais si on a besoin de fumer, on sait que notre corps, une fois qu'on l'habitue à fumer, il y a une drogue là-dedans qui fait en sorte que ça envoie un signal au cerveau. « Hey, ça serait le temps de fumer une cigarette. » Puis ça a l'air que le sentiment de manque ou de manque intense de la cigarette est extrêmement fort. Mais si tu flanches, ça veut dire que ton cerveau a perdu sur ton corps. Donc toi, ce que tu as fait pendant plusieurs années, c'est de lutter constamment contre ton corps qui te demandait des trucs.
Oui, puis non. Quand tu as des objectifs obsédants, puis tu vois les bénéfices, puis tu fais toi une liste, là, OK? Si tu continues à faire ce que tu fais présentement, tu parlais de fumer, là, c'est quoi les conséquences dans 5, 10, 15 ans? Ouais. Alors, si tu es capable de voir les conséquences négatives, puis après ça, tu vois les conséquences positives, bien là, tu as une raison, tu as une volonté de faire ce que tu veux faire, ton changement. Une mauvaise habitude, ça prend en moyenne 21 jours, OK? Jusqu'à 66 jours pour vraiment l'ancrer profondément dans toi. Et on peut tous, si on connaît les raisons, les conséquences négatives de ne pas changer, puis si on connaît les bénéfices de vouloir changer, on peut tous, pendant au moins 3 semaines, faire quelque chose. Si on est très motivé, dans le fond. Et, tu sais, ça prend de la discipline. C'est ça le mot-clé que tu cherchais tantôt, là. La discipline, c'est de faire ce que tu sais devoir faire, même qu'elle ne s'entende pas. La discipline, c'est de faire aujourd'hui ce que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire afin d'obtenir demain ce que la majorité des gens n'obtiendront jamais. Et ça, là, oui, je vais me l'attribuer, là. C'est une qualité que j'ai toujours eue dans la vie. Et tous les gens que j'étudie, parce que moi, ma passion dans la vie, c'est d'étudier les gens qui ont du succès. Effectivement, les gens qui ont du succès, que ce soit au niveau politique, au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau affaires, ben, c'est des gens qui ont de la discipline. Ouais. C'est des gens qui sont capables d'outrepasser certaines de leurs émotions, puis comprendre au niveau intellectuel que, regarde, ça, c'est bon, puis ça, c'est pas bon. Je me donne 3 semaines, puis après ça, je vais pouvoir réévaluer les choses. Mais souvent, après 3 semaines, tu l'as cassé, ton habitude. Et puis, là, tu sais, moi, là, écoute, je joue au tennis, là, ou je joue au hockey, là, je peux-tu te dire que c'était pas juste une bière, c'était le pichet de bière que je buvais après, là, t'sais, tu venais de dépenser 2 heures d'énergie, tout ça. Fait que la journée que j'ai pris cette décision-là, là, c'était difficile, parce qu'après avoir fait un effort intense comme ça, ou quand j'arrivais le soir au chalet, quand je m'assisais sur le bord du feu, où t'arrives, là, c'est le ponton qui a recommencé, je veux dire, c'est tout là des conditionnements, des réflexes que t'avais l'habitude de prendre une consommation. Mais là, c'est fini, ça. Puis là, aujourd'hui, après 5 mois, j'ai plus du tout l'envie, le désir, je me suis déconditionné. Mais ça prend à peu près, il faut se laisser 3 semaines. Puis n'importe qui peut faire quelque chose pendant 3 semaines et souvent c'est suffisant pour briser une mauvaise habitude.
Puis de savoir aussi pourquoi on fait les choses. T'sais, moi, m'entraîner, c'est pas quelque chose que j'aime, mais je dois le faire quand même. Jouer au hockey, c'est quelque chose que j'aime. Puis, mais des fois, je suis chez nous, il est 21h le soir, on est un lundi, il fait froid dehors, puis il faut que j'aille à l'aréna. Ma blonde me dit, mais reste donc à la maison. Puis mon cerveau, il prend mon corps en charge. Puis il dit non, attends un peu, là, t'as besoin d'aller décharger peut-être tout le stress que t'as accumulé pendant ta journée.
Oui, puis il y a du monde qui tourne sur toi. Là. Si tu fais partie d'une équipe, on s'entend. Là, si tu te présentes pas et t'es le goaler, là, ça marche pas. Là.
Mais c'est le fait de toujours faire gagner le cerveau sur notre corps qui dit ben non, c'est pas mal plus relax rester à la maison sur le divan avec ta conjointe puis de prendre un petit verre de vin. Ben, mais ton corps a besoin de se libérer de ce stress-là.
Mais ça, Yannick, moi, 50 ans, j'ai pris une décision. Moi, je me suis entraîné toute ma vie. J'ai fait, j'allais dans les gyms et tout ça. Puis à 50 ans, j'ai dit, c'est fini les gyms. Parce que, un peu comme toi, là, aller à un gym, j'avais pas de fun. OK, je me sentais bien après. Je savais que c'était important pour mon corps, tout ça, mais j'avais pas de fun. Puis quand j'ai eu 50 ans, j'ai dit, fini les gyms, je me suis mis à jouer au tennis. Là, ça fait 3 ans que je joue au tennis, je capote. Ma vie bien raide. Ça dure 2 heures, des matchs de tennis. Je dépense à peu près 1400 calories par un match. Mais j'ai du fun. Je m'amuse. Puis j'ai pas l'impression de. Tu sais, j'allais m'entraîner, j'allais de reculons, comme tu dis, là. Puis là, j'ai du fun. J'ai du fun. Je joue 4 heures de tennis par jour, par semaine. Puis j'ai pas l'impression de me battre puis de devoir y aller. Au contraire, je me lève le matin, je dis, ah, c'est mardi. Yes, j'ai du tennis aujourd'hui. De ces jeudis, yes, j'ai du tennis. C'est pas comme avant, c'est, il faudrait que je m'entraîne. Fait que c'est de, si t'es capable de concilier l'activité physique, quelque chose que t'aimes faire, mais qui te dépense d'énergie, tant mieux. T'es pas obligé de t'entraîner. Tu peux faire plein d'autres choses à la place.
C'est parce que c'est les résultats. Moi, j'aime le résultat de l'entraînement. J'aime ça avoir des épaules. J'aime ça me tenir droite. Le hockey m'apporte un bas de corps que j'aime bien, m'apporte un cardio que j'aime bien, mais je dois compenser pour le haut. Donc, aller m'entraîner me tente pas, mais qu'est-ce que je fais, Patrick? C'est que je me mets de la musique que j'aime. de la musique entraînante. Je m'en vais là, puis j'essaie d'avoir comme un mindset qui est un peu plus positif en me disant, regarde, je suis rendu sur place, je suis aussi bien de faire mes affaires, puis avoir du plaisir, quitte à dire bonjour le soir au monde, puis jaser une fois de temps en temps, mais faire mes affaires. Puis après ça, c'est le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien pour toi, plutôt que d'être resté chez vous, faire du Netflix and chill, là.
Ouais, puis tu peux te donner une petite récompense. J'ai commencé à faire, c'est prendre des saunas après mes entraînements ou mon tennis, là. Fait que c'est un petit 10 minutes de récompense aussi. Ouais. Fait que ça te motive d'y aller encore plus. Fait que faut trouver, comme tu dis, là, les choses qui nous donnent du plaisir.
Le sauna, ça, j'embarque. Moi, j'ai des chums un peu fous, puis j'ai quelques personnes à qui j'ai parlé dans Mars au soir d'activité physique et tout ça. Là, ils ont commencé à prendre des bains de glace.
Ah, sacré fait. J'ai essayé ça aussi. Oublie ça, là. Hey, je me suis tellement forcé parce que, ressemble-t-il, il y a des bénéfices incroyables. Oui. Les saunas, c'est l'équivalent, c'est un choc thermique. Hein? Oui. Alors, moi, je préfère les saunas que les bains de glace.
Oh, oui, mais là, j'ai toujours peur de faire une crise cardiaque en faisant ça.
Un de mes amis, il a fait un bain de glace. Écoute, je pense que la première fois, il est resté 6 minutes dessus. Puis, écoute, il y a une partie de son corps qui n'a pas vraiment aimé ça. Je vais t'éviter les détails, là, mais je riais tellement. Là, c'est un entrepreneur, lui, avec, qui se lançait des défis. Mais 6 minutes, on s'entend que la première fois, c'est un peu trop.
les problèmes les plus présents chez nos entrepreneurs du Québec, ça peut être quoi pour les avoir rencontrés, Patrick?
Gestion du temps et des priorités.
C'est toujours ça.
Conciliation, travail, famille, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et moi, je salue les entrepreneurs. Moi, je suis un entrepreneur, mais je suis surtout un solopreneur. Il y a 80% des gens qui n'aiment pas leur travail. Il y a 80% des gens qui ne sont pas passionnés par leur travail. Ça ne veut pas dire qu'ils détestent leur travail, mais ils n'ont pas de passion. C'est-à-dire que tu leur donnes 10 millions, demain matin, ces gens-là, ils font d'autres choses. Ils s'en vont, bye bye boss, c'est parti. Fait que d'avoir une entreprise, d'être un entrepreneur, d'avoir à gérer du personnel, donc 80% des gens qui sont tes employés, c'est des gens qui ne sont pas passionnés par rapport à ce qu'ils font, c'est tout un défi, c'est tout un challenge. Et moi, j'ai plein d'entrepreneurs dans mes amis qui ont des équipes de 100, 150, 200 employés, puis je leur lève mon chapeau. Puis ces gens-là, moi, ce que je regrette, c'est que souvent, ils n'ont pas de temps, ils sont tout le temps, écoute, ils me le disent en privé, Patrick, j'ai l'impression de gérer une garderie, lui, il est arrivé ça, elle est arrivée ça, tu peux pas savoir, je me suis fait voler par un emploi. Là, il me compte ça, puis moi, je suis comme... Puis ça, je lève mon chapeau pour ça. Je lève mon chapeau pour ceux qui sont capables de faire ça. Puis souvent, ces gens-là, à un moment donné, ils disent, je suis capable, je veux vendre. Je veux vendre mon entreprise, je veux profiter de la vie, je veux profiter de ma famille. Puis moi, je suis un solopreneur, puis mon but dans la vie, c'est simple, c'est de travailler 15 heures par semaine. Je suis rendu à 53 ans, je veux profiter de la vie, jouer au tennis, faire du ponton, faire de la moto, c'est ma passion numéro un dans la vie. J'aime ça partir 3-4 fois par semaine pendant 3-4 heures. Fait que moi, c'est ça, je veux travailler, je veux m'occuper, je veux me sentir utile, je veux aider les gens 15 heures par semaine, 20 heures par semaine l'hiver, peut-être 10-12 l'été. C'est mon but dans la vie. Fait que, mais d'avoir plein de responsabilités comme ça, aujourd'hui, j'en veux plus. Okay. Mais il y a un certain moment donné que oui, tu payes une grosse hypothèque, t'achètes un voisin gonflable, tu t'achètes la grosse voiture, t'es membre au terrain de golf. Fait que là, il faut que tu payes toutes ces bébelles-là et ces affaires-là. Fait que t'as pas le choix de travailler. Sauf que plus que tu vis simplement, plus que tu vis en dessous de tes moyens, moins tu as besoin justement de travailler toutes ces heures-là, puis tu peux plus profiter de la vie. Puis ça, c'est une discipline que j'aurais aimé apprendre un peu plus tôt, disons, de vivre un peu en dessous de mes moyens. Je l'ai appris un peu plus tard, malheureusement.
Écoute, il y a plein de choses dans ce que tu me dis, là, j'ai plein de questions. Tu me dis qu'il y a 80% des gens qui nous écoutent présentement, qui pratiquent un métier X, qui peuvent être propriétaires d'entreprises aussi, qui ne sont pas passionnés par ce qu'ils font.
Effectivement.
Mais comment ils réussissent à passer au travers de toutes ces années-là dans ce métier?
Avec ce qu'on appelle des trucs addictifs. Il y en a que c'est la drogue, il y en a que c'est l'alcool, il y en a que c'est le jeu, il y en a que c'est la nourriture, il y en a que c'est des sacoches. Hein. Il y a des madames qui s'ajoutent des sacoches. C'est des substituts motivationnels qu'on appelle. Okay, je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, je rencontre un gars, il s'appelle Denis. On était dans un restaurant-bar comme ça. La propriétaire, elle me dit, je te présente Denis, vous allez bien vous entendre. On était assis un côté de l'autre au bar, il y avait un band. Et on commence à jaser. Et Denis, lui, c'est un gars qui, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je travaille chez Hydro-Québec. Ça fait 22 ans que je travaille chez Hydro-Québec. Puis tout ça, je dis, ah ouais, Caroline, c'est surprenant. Tu sais, depuis tantôt, je te jase. Tu m'as pas parlé, tu m'as parlé d'immobilier, tu m'as parlé de sport nautique, tu m'as parlé plein d'affaires. Mais tu travailles chez Hydro-Québec 22 ans. Je peux te poser une question. Il dit, je ne veux pas parler trop longtemps de ça, mais il dit, t'aimes-tu ta job? Il dit, je déteste mon travail, Patrick. J'haïs ça. Il me reste 8 ans et 2 mois avant de prendre ma pension. Puis si je m'en vais tout de suite, mais je vais tout perdre ma pension. C'est pour ça qu'il ne voulait pas s'en aller. Puis il y a bien des gens qui sont dans cette situation-là. Il reste dans une job. Puis lui, dans son cas, écoute, il était rendu à sa deuxième bouteille de vin rouge. Là. On avait bien du fun, mais lui, dans son cas, c'était le vin rouge. Il y en a que c'est la bière, il y en a que c'est l'alcool, il y en a que c'est la drogue, il y en a que c'est des... Alors, quand tu n'es pas passionné par rapport à ce que tu fais, tu vas souvent chercher du plaisir, ce qu'on appelle des substituts motivationnels. Il y en a que c'est la cigarette. Alors, mais quand tu es réellement passionné, là, puis ce que tu fais au quotidien, là, t'allumes, là, t'as pas le désir ou le besoin d'aller remplir un vide avec des substituts motivationnels. Alors, que pour venir à l'entrepreneur qui, lui, gère 80 % de gens qui travaillent pour lui, qui ne sont pas nécessairement passionnés par rapport à ce qu'ils font, c'est tout un défi. C'est tout un défi. Puis moi, je relève le chapeau à ces gens-là. Puis moi, c'est un des buts, un de mes buts dans la vie, c'est d'aider les gens à prendre une décision puis décider de faire ce qu'ils veulent faire. Pas lâcher tout demain matin, là, mais de faire un plan, commencer à étudier, faire une transition pour que, éventuellement, d'ici 6 mois, 1 an ou 2 ans, tu puisses t'accomplir dans un métier que tu aimes vraiment, qui te passionne. Puis je pense qu'on peut tous le faire à moyen et long terme, pas à court terme.
Ou déléguer des tâches qui te plaisent peut-être un peu moins. Quand tu te rends compte que tu es un entrepreneur, tu te dois d'être créatif, puis là, tu es en train de gérer un asile psychiatrique, peut-être que tu pourrais trouver quelqu'un qui est peut-être un peu plus au niveau psychologique.
Qui a gagné moins, oui.
Tu sais, oui. Capable de le faire. Puis là, toi, tu pourrais te concentrer sur le développement de ton entreprise. Mais
tout à fait,
écoute,
tout à
cette statistique-là m'impressionne grandement. 80 % des gens qui sont pas passionnés par leur travail. Tu sais, qu'est-ce que tu dis?
80 % des gens, là, tu leur donnes 10 millions le matin, là, ils s'en vont. Ils ne gardent pas leur job.
Ouais. Mais qu'est-ce que tu dis à tes enfants, toi, pour les choix de carrière? Qu'est-ce que tu leur as dit?
Ben, j'ai deux filles. Il y en a une qui vient d'avoir 16 ans, l'autre va avoir 15 ans. Jade et Kim, que j'adore. Et je touche du bois, sont bonnes à l'école. Alors moi, j'ai dit que votre job, c'est d'aller à l'école, c'est d'avoir des bonnes notes, c'est vous laisser le plus d'opportunités puis de choix. Ils sont trop jeunes encore pour savoir ce qu'ils vont faire. Quoique la plus vieille, d'après moi, pourrait être en affaires, là, elle a un peu le flair de tout ça. Mais moi, ce que je lui dis, c'est que moi, je vais t'aimer, peu importe ce que tu choisis de faire dans la vie, mais c'est important de choisir quelque chose parce que t'aimes ça, pas juste parce que c'est un bon salaire. Parce que tu vas te tanner. Mes premières entreprises là que j'ai parties, moi, c'était exactement ça.
Ouais.
J'avais l'appât du gain, je partais des entreprises, puis après 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui arrivait? Soit que je les abandonnais ou je les vendais parce que je n'étais pas passionné par rapport à ça. Donc, je ne le faisais pas pour la bonne raison. Donc, tu veux faire... Là, j'aide des gens, les coachs, à se partir en affaires. Je ne pars pas un programme d'accompagnement sur un sujet seulement parce que c'est payant. Là. Présentement, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Donc, je vais aider les gens à embaucher, à retenir les... Oui, mais en 3 ans, tu vas encore triper sur ce sujet-là. Tu sais. Choisis un sujet parce que tu aimes ça. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Qu'est-ce que tu fais le soir? Qu'est-ce que tu écoutes, par exemple? Qu'est-ce qui te fait triper? Qu'est-ce que tu fais dans tes loisirs? Et là, quand tu choisis moi, que j'ai commencé avec le développement personnel, c'est ce qui me faisait triper. Fait que j'ai commencé à donner des conférences et des ateliers sur la motivation, le développement personnel. J'en ai fait un métier, disons. Et moi, c'est ce que j'incite les gens à faire. Trouve quelque chose qui te fait triper. La vie est trop courte pour faire un travail que tu n'aimes pas. Puis d'espérer d'avoir du fun une fois que tu seras retraité, alors que tu auras peut-être plus la capacité physique de le faire. Et il y a trop de gens qui vivent dans des prisons sans barreaux. Alors, on doit sortir de là, puis on doit décider de faire quelque chose qu'on aime. On a le choix, on peut. Il faut s'éduquer. Souvent, ça commence là. Ce qu'on connaît pas nous fait peur. Donc, il s'agit juste d'aller chercher de l'information. Puis aujourd'hui, c'est tellement facile avec les TikTok, avec les YouTube de ce monde, de s'auto-éduquer et de décider. Puis il faut l'essayer aussi. Pour ceux qui sont plus jeunes qui nous écoutent, tu me disais tantôt qu'il y a des jeunes qui vous écoutent, qui sont plus jeunes. Bien, pour eux autres, ce que je leur dis, c'est essaye plein d'affaires. Puis c'est ce que je vais dire à mes filles. Essaye ça. Tu vas savoir si t'aimes pas ça. Au moins, tu l'auras essayé. À une manière, à force d'essayer 10, 15 métiers différents où ben là, tu vas savoir ce qui t'allume, puis à ce moment-là, ben, tu vas être en mesure de prendre une décision pour le restant de ta vie. Mais il faut essayer plusieurs choses au début quand on est jeune, je pense.
Ouais. Puis ce qui t'a défini comme personne, Patrick Leroux, du moins ma perception à moi, c'est que tu n'as pas peur de te planter. Mm-hmm. Puis combien de gens on va croiser sur notre chemin qui va dire ben, un jour je vais le faire. Ouais, mais qu'est-ce qui t'empêche? Ouais, mais là, c'est un domaine où c'est pas si facile que ça, puis il faut travailler fort, puis là, mes enfants sont encore jeunes, mais à un moment donné, il va être trop tard. T'sais. C'est quand est-ce que tu remets
des excuses? Moi, constamment. J'aime toujours ça, faire des défis publics. Quand j'ai dit aux gens que j'arrêtais de boire pendant un défi de 30 jours, là, je l'ai dit publiquement sur mes médias sociaux, donc j'avais pas le choix de le faire. Ça donne une certaine de pression positive. Oui. Mais tu sais, c'était pas mon premier défi. Je l'avais accompli d'autres dans le passé, fait que je savais que probablement que je l'aurais aussi, quoi que c'était quand même un défi au début. Je te dis, il y a plusieurs fois que les tentations étaient fortes, mais quand tu as fait un commitment public, ben t'as pas le choix de le faire parce que sinon tu vas passer pour un gros loser, là, de dire, okay, t'as pas. Alors, ça, c'est une chose qu'on peut faire qui va nous aider à accomplir nos objectifs, c'est de les partager publiquement. Fait que t'as pas le choix de le faire parce que tu veux pas perdre la face.
Mais c'est pas
mon premier défi. Hein.
Okay. Mais de ton côté, Patrick Leroux, je sais pas, moi, de mon côté, ce que tu viens de donner là comme technique, c'est-à-dire de faire un commitment, donc de le dire à tout le monde.
Publiquement.
Moi, j'ai un orgueil.
Ouais.
Puis si je le fais, je sais que je voudrais pas perdre la face, puis je vais être obligé de le faire parce que je veux pas perdre la face. Ouais. Fait que mon petit défaut d'orgueilleux, je peux l'utiliser à bon escient.
Tout à fait, tout à fait.
Puis ça sert à ça, écoute, les commitments.
Écoute, même quand je donne des conférences, je fais ça à la fin, je dis « OK, à la fin de la conférence, c'est quoi la meilleure idée que vous avez appris aujourd'hui que vous allez mettre en action? » Ben, j'appelle ça mon... Puis là, je leur donne un petit bracelet, puis c'est écrit « Mon engagement, my commitment » dessus, c'est un petit bracelet bilingue. Puis là, j'ai dit « Le bracelet, c'est pour vous rappeler de votre engagement, ce que vous allez faire. » Parce que c'est bien beau assister à une conférence comme aujourd'hui, mais si vous faites absolument rien avec l'information, il ne se passera rien dans votre vie. La grosse différence avec les gens qui ont du succès et ceux qui n'en ont pas, c'est ceux qui passent à l'action. Là, j'ai dit « C'est quoi la meilleure idée parmi toutes celles que je vous ai partagées aujourd'hui que vous allez faire? » Vous avez un bracelet, vous en rappelez. Puis là, j'ai dit, vous allez vous trouver un partenaire d'imputabilité. Donc, partagez votre engagement avec la personne qui est assise à côté de vous. Et je veux que dans 21 semaines, vous fassiez un suivi un et l'autre pour savoir où vous en êtes par rapport à votre engagement. Fait qu'encore une fois, il y a de l'accountability ici. Là, hein? Ils ont partagé leur engagement. 21 jours après, ils se rappellent un et l'autre pour savoir. Fait que là, juste le fait que ton chum ou ta partenaire, ta collègue de travail va t'appeler dans 21 jours, tu veux pas lui dire, ouais, finalement, j'ai rien fait. Tu veux le faire parce que tu veux pas perdre la face, comme tu dis. Fait que c'est une super technique d'avoir de l'accountability comme ça.
On peut utiliser nos défauts. Parle de développement. Excuse-moi, tu l'as dit tantôt. Développement
personnel.
Depuis des années, moi, je suis des conférenciers que j'aime bien, mais tu fais partie de ceux-là d'ailleurs. Tu as parlé de Tony Robbins tantôt, je ne sais pas si on était en onde ou hors d'onde, mais je suis en train de retourner dans un des livres de Tony Robbins, puis je n'ai pas besoin de le faire. Ma vie va super bien, Pat. Je suis en couple, mes enfants vont bien, je suis motivé par mon travail, je suis un passionné de mon travail, j'ai la chance de rencontrer des gens extraordinaires à chaque jour, mais je continue mon développement personnel quand même. Puis souvent, on me dit, mais Yann, pourquoi tu écoutes des livres audio? Parce que là, j'ai plus le temps de lire, parce que quand je suis à la maison, les enfants sont là, ils me dérangent tout le temps. Puis c'est bien rare que j'ai 3-4 minutes pour prendre la peine d'ouvrir mon livre. Fait que maintenant, j'écoute mes livres audio, puis j'écoute ça, puis ça me permet des fois d'aller à d'autres endroits que je n'irais pas. Ça développe ma créativité. Tu vois, j'avais pas pensé à telle ou telle affaire. Puis dans un des livres de Tony Robbins que je suis en train d'écouter, ce qu'il dit, c'est que 80% des gens qui lisent des livres sur le développement personnel ne finiront jamais le livre.
Oui, c'est très rare, les gens qui dépassent le premier chapitre, c'est vrai. Mais ce que tu dis là, c'est hyper important, Yannick. C'est comme prendre un bain. Pourquoi je prends un bain tous les jours ou une douche? Parce que j'ai besoin d'en prendre tous les jours.
Ben oui.
Développement personnel, c'est la même chose. Un jardin que tu ne t'occupes pas, qu'est-ce qui va se passer? Les mauvaises herbes vont prendre ton jardin.
Ouais.
Fait que le fait de se ressourcer à travers des lectures, des audios. Moi, j'aime beaucoup TikTok parce que c'est des petites courtes. Moi, les gens que je suis sur TikTok, là, c'est pas des chats et des chiens. Puis c'est vraiment des spécialistes qui me font réfléchir. C'est des petites capsules, 30, 40, 50 secondes. Puis à tous les jours, quand je vois là-dessus, là, j'écoute ça 10 minutes, je suis crinqué au bout. Le défi avec TikTok, c'est de savoir arrêter parce que c'est addictif. Mais les gens que je suis là-dessus, ça m'aide beaucoup. Fait que allez chercher l'information comme vous voulez, que ce soit des audios, que ce soit des livres, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, mais suivez des gens qui sont inspirants. Puis on a besoin de ça. On a besoin de prendre un bain, une douche à tous les jours. On a besoin également de se retirer. Moi, ce que je fais, là, qui je vais partager avec toi puis les auditeurs, puis je sais pas s'il y en a qui le font, là, c'est un de mes secrets du succès, je vous dirais, là, c'est d'éprouver de la gratitude soir et matin. Je prends 30 secondes le matin en me levant, je prends 30 secondes le soir avant de me coucher, puis je dis tout simplement merci. Tu peux remercier qui tu veux, hein? Bouddha, Allah, Krishna, peu importe qui tu crois, moi j'appelle la vie, là. Je remercie la vie pour toute l'abondance que j'ai présentement dans ma vie. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que j'attire encore plus de cette énergie positive-là. Si tu te lèves le matin, puis tu lis les nouvelles négatives, tu te couches le soir, tu lis les mauvaises nouvelles, tu vas vibrer négativement, puis sans que tu le vouloir, tu vas attirer ces choses-là. On attire toujours les choses sur lesquelles on se concentre. Tu sais, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent présentement, là, qui doivent changer leur voiture d'ici les 3 prochains mois. Certains, vous avez déjà pensé à un modèle de voiture que vous voulez. Mais je ne sais pas, vous avez remarqué, là, vous les voyez sur tous les coins de rue, ces modèles de voitures-là. Tu te mets à attirer. Il y en avait autant il y a 6 mois, mais tu n'y pensais pas, tu ne les voyais pas. Là, tu les vois partout. Fait que quand tu penses à ce que tu as et que tu aimes, tu vas attirer encore plus de ces choses-là dans la vie. Fait que moi, là, je suis mordicus, vendu à cette idée que d'éprouver de la gratitude pour ce qu'on a à tous les jours, 30 secondes le matin, 30 secondes le soir, c'est une des meilleures habitudes qu'on peut développer pour améliorer sa qualité de vie.
Puis en psychologie, on appelle ça le fameux biais qu'on s'installe constamment. Puis tu donnes un exemple des voitures, on peut s'en donner un autre. T'sais. Tu vas chez le concessionnaire auto, tu vois un véhicule, il est jaune. Tu dis, hey, c'est donc bien rare que je vois un véhicule jaune. Je vais l'acheter, ça va être unique. Et tout d'un coup, tu embarques sur l'autoroute puis tu vois tous les véhicules jaunes. Fait que tu as raison quand tu dis, des fois, se faire un mindset peut-être positif pour se dire, t'as peu, je vais enlever tout le négatif puis je vais essayer de voir les choses de façon peut-être un peu plus positive. L'entourage, l'importance de l'entourage pour un homme ou une femme d'affaires. faire, ou pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans le développement personnel, des gens qui tirent trop de jus, on fait quoi avec ces gens-là? Des gens qui, à chaque fois qu'on est en discussion avec eux, sont toujours dans les « oui, mais », ils ne passent jamais à l'action. J'aime beaucoup m'entourer, moi, de gens, des hommes et des femmes d'affaires, ou monsieur et madame qui sont dans des domaines où ils sont extrêmement positifs constamment. Ça rehausse la soirée quand on s'entoure de ces gens-là, parce qu'on arrive sur plein de sujets, ces gens-là sont hyper allumés, puis t'es pas fâché. T'es pas fâché quand tu le jases.
Moi, j'ai une règle toute simple lorsque quand je choisis mes amis, mes fréquentations, c'est est-ce que la personne m'apporte de l'énergie ou m'enlève de l'énergie? Et là, moi, les gens qui font partie de mon cercle d'influence, on appelle ça comme ça, là, que ce soit des collègues de travail, que ce soit des amis ou peu importe, c'est des gens qui ont un niveau d'énergie de 9 ou 10 sur 10. C'est-à-dire, quand je suis à leur présence, là, ils me font rire, ils n'essayent pas de mépriser des gens dans leur entourage, de rapetisser les gens, au contraire, ils sont positifs, ils parlent de leurs projets et non tout le tour de leurs problèmes. Et tous ceux, au contraire, qui, au premier contact, tu le sais, là, des gens qui sont négatifs, qui sont pessimistes, qui chiolent tout le temps, qui parlent de la mauvaise météo, mais comme tu dis, ces gens-là, moi, je les évite comme la peste. Et là, la question à se poser, c'est ouais, mais si j'en ai dans ma famille, je fais quoi avec ces gens-là? Et bien, tu as le choix. On a le choix dans la vie de passer de moins en moins de temps avec ces gens-là, puis passer de plus en plus de temps avec les gens qui nous apportent de l'énergie. Et même, j'ai dû faire un moment donné avec ma mère. Quelque chose de personnel que je te partage. Mais maintenant, tu ne m'appelles jamais, puis tout ça, puis là. Mais là, je dis, OK, maman, je vais te le dire, pourquoi je ne t'appelle pas souvent? C'est qu'à toutes les fois que je t'appelle, tu me parles des problèmes d'un tel, puis ça, moi, ça me donne quand je finis l'appel. Fait que j'ai moins le goût de t'appeler, maman. Fait qu'on fait ça un deal. Je vais t'appeler plus souvent, mais s'il vous plaît, quand on se parle, parle-moi pas les problèmes de tous tes amis. On fait ce deal-là? Elle dit, correct, Patrick, j'ai compris. Puis à partir de ce moment-là, on a pu améliorer notre relation. Mais moi, je me fais un devoir de me tenir juste avec des gens qui m'apportent l'énergie. Et les gens qui me sucent d'énergie, hein, les éteignoirs de chandelle, là, ces gens-là, là, j'y fuis à 100 000 $ très, très vite. Là, c'est... Puis ça, tu peux prendre la décision demain matin. Tu sais, quelqu'un là, qui veut t'amener, ah, viens-tu manger avec moi? Ben, c'est quelqu'un négatif, tu dis non, tout simplement, tu t'inventes un truc, puis tu y vas pas. Mais les gens qui t'apportent d'énergie, au contraire, là, ben, colle-toi à ces gens-là. Et tu vas voir, ils vont t'inspirer, ils vont te partager leurs valeurs, ils vont te parler de leurs projets, ça va te donner des projets, toi aussi, à réaliser. Moi, j'y crois. On est à moyenne, c'est Jim Rohn qui disait ça, qui est un mentor à Tony Robbins, il disait, nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Puis j'y crois. Notre salaire est souvent la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Notre niveau d'énergie est souvent la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Notre santé est souvent la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus parce qu'on est influencé par les gens. On est des êtres grégaires. On est influencé par les gens qu'on côtoie au quotidien. J'y crois fermement.
Il y a de ça 2 ans, je discutais avec un gars et ce gars-là est un de mes chums très proches. Il me dit, Yann, je me lance en immobilier. Puis là, j'avais dit, ah ouais, tu te lances en immobilier? Ouais. J'ai dit, tu vas faire ça comment? Il m'a dit, il y a plusieurs étapes, là, mais il dit, avant d'investir, je vais me mettre dans des groupes de gens qui trippent sur l'immobilier. Ouais. J'ai dit, OK, mais pourquoi tu vas faire ça? Ben, il dit, de 1, pour en apprendre un peu plus, mais de 2, pour me mettre en contact avec des gens qui sont dans ce domaine-là. Puis qui sait, on peut peut-être aller faire des 5 à 7 puis jaser avec eux. Puis au début, je comprenais pas trop son modus operandi. Moi, dans ma tête, c'est quand tu es prêt à investir en immobilier, tu t'en vas à la caisse puis là, tu achètes ton 3 logements, mettons. Mais lui, il a fait une autre stratégie. Puis en se greffant des groupes comme ça, il a fait des 5 à 7, il a rencontré ces gens-là, il a eu des partenaires possibles d'affaires qui l'ont aidé à acheter son premier immeuble à logement. Puis aujourd'hui, il est au-dessus de 100 portes. Alors qu'il aurait pu commencer, comme moi je lui disais au départ, mais commence avec un 2 logements puis un 3 logements. Lui, c'est pas ça. Il a utilisé une belle stratégie, la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent. Il s'est greffé à lui des gens qui investissaient en immobilier depuis des années, qui ont fait des erreurs, puis qui ont fait des bons coups. Ce qui fait
ils
en
ont
sorte
évité de faire des erreurs. Ils ont évité de faire des erreurs lui-même.
Ce qui fait en sorte, c'est qu'en les côtoyant, il a sauvé énormément de temps. Il est passé par les bons canaux, puis aujourd'hui, ben, il pourrait arrêter de travailler, mais il continue encore. Il travaille pas mal plus que la moyenne des ours. Là.
Très, très important des gens qu'on fréquente. Je suis d'accord avec toi.
Ouais, mais c'est si banal.
Oui, c'est simple. C'est simple, le succès, là, c'est pas si compliqué que ça. C'est de savoir ce que tu veux, ça c'est la première chose, savoir qui tu es, savoir tes valeurs, savoir ce que tu veux, y croire, s'entourer de gens qui sont prêts à t'aider, qui ne mettront pas des bâtons dans les roues, puis de faire preuve de discipline et de persévérance. Tu sais, c'est en gros, c'est à peu près ça. Et ça, c'est applicable dans toutes les sphères de notre vie. Et si on peut s'entourer de gens qui nous inspirent à atteindre nos objectifs, tant mieux. Et de fuir les gens qui nous empêchent ou qui nous mettent des bâtons dans les roues, c'est très, très simple. On a le choix. On a le choix de dire oui, je veux passer du temps avec cette personne-là ou oui, je veux passer moins de temps avec cette personne-là. C'est un choix qu'on a.
Quand j'ai été sur le site web de patrickleroux.com, c'est toi, on fera pas comme si t'étais pas là. J'ai stressé un peu.
Ah oui?
Oui, j'ai vu le titre, c'est un commitment en fait. Comment gagner plus de 100 000 $ par année en ligne en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine? Je me suis dit, ouais. Tabarouette. Puis là, après ça, j'ai vu en haut à droite, je réserve un appel à 100 000. Là, je me suis dit, si je clique là-dessus, ça va-tu me coûter 100 000 ou...
C'est gratuit, c'est une consultation gratuite pour savoir si jamais je peux t'aider. Ouais. Ce que je fais, c'est que je donne un plan d'action en 3 étapes pour aider les gens à développer leur business en ligne. Et par la suite, à la fin de l'appel, seulement avec leur permission, si je sens qu'on est un bon fit, à ce moment-là, je peux leur parler comment je peux les aider. Mais il y a beaucoup de gens qui finissent l'appel puis ils partent de là avec mon plan d'action puis ils essaient de le faire par eux-mêmes. C'est assez difficile, on va le dire, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre en considération. Mais oui, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'aide les coachs, les experts, les gens qui ont une expertise, qui sont peut-être un peu tannés de leur travail, ou des gens qui font des consultations un à un, qui n'ont pas de vie, qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent. Bien, je les aide à... C'est un programme de coaching de groupe que j'aide faire. Fait que quand tu fais un programme de coaching de groupe, la formation est en ligne, donc tes étudiants, ils suivent la formation à leur rythme. Toi, tu te présentes une fois par semaine, pendant une heure et demie, tu coaches tes élèves. Comme si c'était du un à un, sauf qu'il y a 7, 8, 9, 10 personnes qui écoutent en même temps, ils ont tous le même problème. Fait que quand t'en coaches un, t'es coach tout en même temps. T'as un gros Facebook privé où ce que tu réponds aux questions des gens. Fait que toi, comme coach, une fois que ta formation est montée, ça te prend à peu près 90 minutes par semaine. Aussi, il faut que tu produises un peu de contenu, il faut que tu envoies un courriel, tu vas prendre des appels, on appelle ça des appels découvertes avec peut-être 2-3 prospects par semaine. Fait que en tout et partout, là, une fois que tu as mis ton entreprise sur pied, ça devrait te prendre une quinzaine d'heures par semaine. Ce qui donne le temps de profiter de la vie et de générer plus. J'ai des élèves qui font 500 000, 1 million par année avec leur entreprise en ligne aujourd'hui. Ils n'ont pas commencé comme ça, ils ont commencé tranquillement, mais 5, 6, 7 ans plus tard, là, ces gens-là, ils gagnent hyper bien leur vie. Ma femme, d'ailleurs, est coach en alimentation keto, elle s'appelle Pénélope Villeneuve, elle aide les femmes qui sont en ménopause, qui veulent perdre du poids, et elle est coach en ligne, elle aussi, elle a commencé de zéro, c'est une massothérapeute, elle avait jamais gagné plus que 25 000 par année, elle faisait 5 massages par jour, elle connaissait rien, mais elle a toujours une passion pour l'alimentation, elle s'est formée, elle est devenue naturopathe, puis aujourd'hui, elle aide les femmes à perdre du poids. Donc, n'importe qui a une passion, qui a une expertise, qui peut aider les gens à résoudre leurs problèmes, ben vous pouvez développer un business avec ça à partir de la maison. Donc, ça aussi, tu n'es pas de rester au centre-ville, tu n'as pas de transport, tu travailles chez toi. Moi, je n'y vois que des avantages.
Est-ce que
liberté géographique, liberté temporelle, très important.
Est-ce que les solo-entrepreneurs, c'est la job de demain? C'est parce qu'à un moment donné, les gens, de plus en plus, vont justement embarquer sur Internet.
Ben, tu as vu ce qui s'est passé pendant la pandémie. Là. Ouais. On a obligé les gens à travailler chez eux. Ils n'avaient pas le choix. Puis on essaie de les ramener au travail. Ils ne veulent rien savoir, le monde. Là. Hey, écoute, je vais-tu perdre 10 heures par semaine dans le trafic? Je suis bien chez nous, moi. Puis là, il faut qu'ils se battent là, pour ramener les gens au travail. Ouais. Les gens ont découvert une qualité de vie exceptionnelle. Et c'est un peu ça que d'être solopreneur, c'est d'avoir une qualité de vie exceptionnelle. Moi, j'habite à Saint-Sauveur, dans la Laurentine. On a choisi d'habiter ici, ma femme et moi, parce que moi, je fais de la moto. C'est un paradis. J'ai pas de trafic, c'est beau, il y a 7 montagnes de ski à 7 km, c'est capotant. Alors qu'il y a des gens qui sont pris pour rester, là, j'ai la cousine à ma blonde, elle a 4 enfants, elle reste sur le plateau Mont-Royal, sa cour là, elle est grande comme ma main. Il y a une année, là, c'est que travailler à son compte, travailler où tu veux dans le monde, d'avoir une liberté géographique, c'est extraordinaire. Puis comme je l'ai dit tantôt, on a une vie, fait qu'aussi bien en profiter tout de suite. On ne fait pas ça du jour au lendemain. On commence tranquillement à temps partiel. Puis une journée que tu fais autant d'argent que ton business en ligne ou ton petite entreprise, là, tu décides de lâcher ton emploi régulier. Mais ça se fait pour ceux et celles qui veulent aider, impacter le monde, puis travailler à domicile, d'avoir cette liberté-là. Moi, c'est ma valeur. Une des valeurs numéro un dans la vie, c'est la liberté. Et c'est ce que permet de faire ce métier-là.
Oui, j'ai des amis qui
grâce à l'Internet.
Ouais, j'ai des amis qui sont courtiers en voyage externe, c'est comme ça qu'on appelle ça. Puis ces gens-là se promènent partout dans le monde avec leur portable, puis ils vendent des voyages à gauche et à droite, mais ils sont à distance. Il y a une liberté qui vient avec ça, c'est que tu peux aller partout, tant que tu as Internet, tant que tu as ton cellulaire ou encore ton portable, tu peux diriger ton entreprise. Puis elle, elle parle avec ses clients avec son téléphone, bien entendu, elle peut faire du Messenger, elle peut faire du Zoom, elle peut faire du Team, mais elle gère son entreprise à distance. Fait qu'elle peut être à Cancun le faire, comme elle peut être en Irlande et le faire aussi. Il y a une liberté dans le solo-entrepreneur.
Tu sais, Yannick, ça fait pas si longtemps que ça que les gens travaillent dans des boîtes pour des gens. Là. Il y a pas si longtemps, si on recule, là, 100-150 ans, tout le monde travaille à son compte. Ça fait une centaine d'années que le monde travaille pour des... On n'est pas fait pour travailler pour quelqu'un, on est fait pour travailler pour nous-mêmes. Fait que la technologie, l'Internet rend accessible cette liberté-là que plusieurs avaient perdue. Qu'est-ce qu'on fait dans la société avec les pas bons, les criminels? On les enferme, on leur enlève la liberté. C'est souvent une des choses les plus importantes pour les gens. Puis il y a bien des gens qui n'ont pas l'impression de vivre une liberté parce qu'il faut qu'ils se lèvent le matin, il faut qu'ils aillent Montréal, passer à travers le trafic, ils travaillent, ils reviennent, ils sont crevés, ils prennent une bière, ils écoutent la TV, puis ils font ça pendant 5 jours, ils ne vivent que pour les week-ends. Hey, c'est pas ça la vie. On peut vivre 7 jours sur 7 pour avoir du fun 7 jours sur 7. Alors d'avoir un travail qui t'apporte une certaine liberté, je pense que oui, c'est l'avenir.
On est avec Patrick Leroux ce soir. Il est conférencier. Il va rester avec nous autres encore 5-6 minutes tout de suite après la pause. Tu me permets de faire une pause, Patrick?
Bien sûr, bien sûr.
Merci beaucoup. PatrickLeroux.com, PatrickLeroux.com pour les entreprises qui voudraient faire appel avec lui. Pour l'avoir en conférence ou encore pour les gens qui veulent faire des conférences, vous pouvez jaser avec Patrick Leroux en allant sur... Patrick Leroux, conférencier, est avec nous ce soir, en ce vendredi, en espérant que vous passez un bon moment. Je pense que oui, parce que ce style de sujet-là intéresse grandement les auditeurs, puis je sais pertinemment que vous allez m'écrire dans les prochaines minutes pour me dire « Patrick Leroux, on le trouve comment? » On a parlé de pandémie, toi et moi, Patrick. Pour un solo entrepreneur, ça t'a-tu fait paniquer quand la pandémie est arrivée? Puis là, ben, tes conférences, c'est « Bye bye, Patrick! »
Bye bye. Ouais, ben, moi, j'avais commencé à faire la transition, heureusement. Ouais. Mon programme phare s'appelle « Business Automatique ». C'est le programme que je te disais tantôt où j'aide les experts à monétiser leur savoir en ligne. J'ai commencé ça en 2018-2019. Fait que quand la pandémie est arrivée en 2020, j'avais commencé. Mais ma source principale de revenus, c'était encore mes conférences à l'époque. Fait que quand t'es conférencier, puis tu fais une centaine de conférences par année, puis là, la pandémie arrive, là, c'est que c'est du jour au lendemain, ça passe de 100-120 conférences à zéro parce que tout est fermé. Fait que là, il y a beaucoup de mes collègues qui ont mangé une méchante claque, ils en sont jamais revenus, disons. Fait que pour nous, là, c'est une des industries qui a été frappée le plus durement, ouais, je te dirais.
Parce que c'était cruel, tu sais, d'habitude, Patrick Leroux est responsable de son succès, puis là, ben, on l'empêche de travailler à certains endroits. Tu sais, un peu, là, qu'est-ce qui se passe, là?
Oui, il y a des gens qui ont su se réinventer, puis qui ont su faire des présentations via Zoom, via Teams comme ça, puis il y en a d'autres que ceux qui résistent au changement, là, puis qui ne font pas de travail. Et tu sais, il y a des gens que je connais dans le domaine de la conférence. Ça fait 20 ans qu'ils font la même conférence mot pour mot, là. Tu sais, alors, ces gens-là qui ne sont pas réinventés à travers les années, qui n'ont pas adopté la technologie, les médias sociaux, qui, moi, je ne veux pas me faire voir sur les médias sociaux. Ben, ces gens-là, ils crèvent de faim aujourd'hui. Il faut que tu te réinventes un moment donné. Puis ça fait partie. La pandémie, ça a eu ses bons effets aussi. Puis aujourd'hui, comme on mentionnait un peu plus tôt, il y a plein de gens qui ont réalisé qu'en travaillant chez eux, ils ont une qualité de vie vraiment meilleure. Ils ne veulent pas retourner. Ils ne veulent pas retourner à ce qu'ils faisaient avant. Fait que, oui, ça fait partie de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut savoir s'ajuster. J'ai une acétate que je donne une conférence, j'appelle ça le cimetière des entreprises. Tu sais, des entreprises comme Distribution Consommateur, par exemple, là, tu sais, les Zellers de ce monde, puis, tu sais, les entreprises qui n'ont pas su innover, changer, les blockbusters, qui avaient l'opportunité d'acheter Netflix, t'imagines-tu? Alors, tu ne veux pas faire partie de ces cimetières d'entreprises-là, il faut que tu saches t'adapter au changement aujourd'hui. C'est une qualité essentielle pour réussir de nos jours.
Ouais. Ouais. Donc, il y a eu énormément de négatifs pendant la pandémie, on va se le dire, mais il y a eu énormément de positifs pour ce qui est de certaines personnes qui ont profité de ce moment-là pour se réinventer. Patrick Leroux qui arrive à 50 ans sur TikTok, est-ce que tu as regardé un peu comment ça se passait avant? Ça a-tu été paniquant parce que c'est un univers qu'on ne connaissait pas, TikTok? Toi, tu es habitué de jaser, puis là, on te dit « Hey, tu as 60 secondes pour jaser. Hey, tu as 2 minutes pour jaser. » C'est comme de l'adaptation pour toi aussi, là.
Ouais, mais TikTok, c'est bien, c'est des vidéos courtes, mais tu vas pas en profondeur. Moi, c'est pas de là que vient ma business. Moi, c'est vraiment Facebook. Il y a 3 milliards de personnes. Il y a Messenger. On peut créer des communautés avec Facebook. Moi, je choisis qui j'ai comme ami. Je fais des demandes d'amitié juste à des gens qui correspondent à mon avatar. J'ai un groupe Facebook privé. Je laisse juste rentrer des gens qui sont ciblés dans mon groupe, qui s'appelle Entrepreneur en ligne d'ailleurs. Alors que si t'es pas un coach, un expert, je t'accepterai pas dans mon groupe. Alors que TikTok, Instagram, c'est ça, n'importe qui peut te suivre. Moi, je regarde mes gens qui me suivent sur TikTok. Écoute, il y a bien des gens, là, c'est pas des clients potentiels, je vais te le dire. C'est une plateforme le fun, mais pas pour la business. De faire de la business, c'est vraiment Facebook qui est à prioriser, je te dirais. Alors oui, j'ai embarqué là-dedans. Je fais des vidéos sur TikTok et Instagram. C'est souvent les mêmes pièces de contenu que je mets d'une place à l'autre, mais c'est pas mon véhicule privilégié. Dans mon cas, quelqu'un qui vend son expertise là, TikTok, là, mais j'en fais quand même des vidéos, mais ma business vient pas de là, je te dirais, c'est plus Facebook.
Mais t'es un gars sans peur. Tu étais quand même si tu savais que t'étais nouveau dans cet univers-là, alors que...
Mais quand tu dis sans peur, faut faire attention. Moi, je prends des risques calculés. C'est-à-dire qu'avant de prendre un risque, je vais m'informer, je vais étudier et puis j'attendrai pas que ça soit parfait. Je vais commencer, puis après la suite, je vais m'adapter, je vais m'améliorer. Mais si... non, il faut quand même avoir une certaine... Il faut s'informer un petit peu. C'est bien beau se lancer, là. Il faut prendre des précautions un petit peu, comme des gens qui me disent... Moi, l'autre fois, quelqu'un m'appelle, dit « Moi, je veux lancer mon business en ligne, ça fait des années, tout ça. J'ai lâché ma job, je suis prêt à commencer. » J'ai dit « T'es malade! » Je veux dire, arrête ça, là. C'est quelque chose que tu fais à temps partiel, ça peut te prendre 6 mois, 1 an avant que tu gagnes assez d'argent. Puis là, après ça, tu décides de lâcher ta job. Dire, prends un risque, faut pas prendre sur un coup de tête, là. Faut prendre des décisions réfléchies quand même, là. Alors, moi, oui, j'aime prendre des risques, mais c'est des risques calculés quand même. Là.
Quand je parlais de sans peur, c'est que maintenant, les gens qui soient sur Twitter ou encore sur Facebook, tu as l'air quand même à avoir une certaine sécurité. Mais quand on envoie nos vidéos, notre contenu sur la toile en tant qu'entrepreneur ou en tant que gens bien ordinaires comme moi
qui faire critiquer,
veulent faire... Il y a de la critique constamment. Ah, oui. Toi qui as un temps qui est assez calculé, là, de te ramasser à essayer de gérer tous les commentaires partout.
Ah, c'est tellement pas compliqué. Dans mon cas, je les bloque, les tatas. C'est aussi simple que ça. Là. Je perds pas de temps et d'énergie à répondre à ces gens-là. Souvent, c'est des émoticons. Ils mettent même pas leur vrai visage, c'est même pas leur vrai nom. Ouais. Ils veulent juste de la polémique. On appelle ça les trolls. Là. Je perds même pas de temps et d'énergie, tout simplement. Regarde, moi, je t'invite chez nous. Là. Viens pas m'engueuler puis chialer après moi. Si t'aimes pas ça, viens pas. Fait que moi, j'ai un compte. T'es libre de t'abonner ou non. Si t'aimes pas ça, va-t'en. Mais je perds même pas de temps et d'énergie aujourd'hui. J'ai bloqué. Je t'entends plus parler. C'est fini.
Ouais. Mais j'aime cette technique-là. Puis
beaucoup, mais quand ça arrive, c'est ce que je fais.
Ouais, ben, je veux dire, moi, en travaillant dans les médias, tu comprends que si tout le monde était d'accord tout le temps avec moi, il y a personne qui m'écouterait. Là. Mais de ne plus donner de l'importance à ces gens-là, c'est un beau step, mais on se pose toujours la question à savoir qu'est-ce qui motive ces gens-là à aller sur la toile puis ne laisser que des commentaires négatifs.
Mais tu sais, il y a des gens qui sont en dépression. Il y a 2% de la population qui sont en burn-out présentement.
Ouais.
Puis il y a des gens qui veulent... ils dégagent une énergie négative qu'on disait tantôt, les gens avec qui on signe tout ça. Fait que tu choisis le genre d'énergie que tu veux avoir. Fait que des gens qui ont une énergie négative, gaspille pas ton énergie avec ces gens-là. Au contraire, concentre-toi sur les gens qui t'apportent d'énergie. Et c'est un signe de maturité, peut-être. Peut-être quand j'étais plus jeune, j'étais plus sensible à l'opinion des autres. Aujourd'hui, tu sais, quand tu sais que 98% des gens te donnent des commentaires positifs, t'apportent une petite différence dans leur vie, ben, concentre-toi pas sur le 2%, concentre-toi sur le 98%. Tu sais, quand je te parlais de gratitude un peu plus tôt, tantôt dans l'émission, là, ben, concentre-toi sur tous les gens que tu peux aider. Puis s'il y a 2% des gens qui t'aiment pas, qui croient pas dans ce que tu fais, ben, faut que t'étasses ces gens-là, t'es laisses faire tout simplement. Donne-leur pas d'énergie.
Je pense que c'est en acquérant de l'expérience, effectivement, qu'on devient comme ça. Parce que dans une salle où il y a 100 personnes, si on sait qu'il y a une personne qui nous déteste, qui est en place, automatiquement,
notre
regard va être dirigé vers cette personne-là.
Ah, ouais,
alors qu'on a 99% des gens dans la salle qui nous aiment. Puis, tu sais, dans les médias, je vais t'avouer quelque chose, tu sais, on les lit tous, les messages. Puis, on a beau avoir 10 messages, « Hey, vous me faites donc bien rire sur l'heure du midi » ou « Hey, vous m'avez appris telle affaire, je pensais pas. » Tu sais, on les aime, puis on les like, ces messages-là. Mais le gars qui nous écrit pour nous dire « Hey, je t'écoute à midi, puis t'es un Christ de pas bon », c'est le seul parmi les 500 ou 1000 qui nous ont écrit. Puis lui, je vais le ramener chez nous, là.
Ouais.
Je vais le ramener chez nous, je vais dire à ma blonde, hey, ça n'a pas de bon sens, il y a un gars qui m'a écrit telle affaire. C'est cruel parfois, mais avec l'expérience, Patrick, comme tu le dis, on vient qu'à faire la part des choses. Est-ce que, je sais que tu travailles 15 heures par semaine maintenant, là,
tu as
un bon train de vie. Est-ce qu'un jour, on pourrait espérer avoir un Patrick Leroux à Québec en conférence?
Aujourd'hui, j'en fais plus des conférences publiques. C'est quelque chose que j'ai fait pendant des années. Aujourd'hui, c'est les entreprises, les organisations qui m'invitent. Fait que oui, j'étais à Québec au Concorde. L'autre fois, j'étais à Wilton. Donc, j'en fais encore des conférences pour des corporations, des organisations. Mais des conférences publiques, non, c'est quelque chose que, à mon âge, j'ai décidé que je faisais plus, là. Mais s'il y a une organisation, il y a une entreprise qui veulent m'avoir en conférence, ça me fait plaisir de leur envoyer une offre de service.
Puis on tourne toujours dans le milieu des affaires avec Patrick Leroux.
Affaires, associations, corporations, j'ai des conférences sur les 4 styles de personnalité, donc c'est la communication, conférences sur comment développer ses affaires, sur la motivation, le leadership. Souvent, c'est des organisations qui font un congrès annuel, puis ils veulent un dernier conférencier avant que les gens s'en aillent, puis qui donnent le goût aux gens de passer à l'action sur les idées qu'ils ont apprises. Donc, c'est souvent à ce moment-là que les gens m'invitent.
T'es-tu victime de ta profession? C'est-à-dire que quand tu jases avec les gens à gauche et à droite ou notre entrevue ce soir qu'on fait, toi et moi, est-ce que tu analyses les types de personnalités avec qui tu jases une fois de temps en temps?
Je le fais toujours parce que c'est une déformation professionnelle, mais c'est rendu instinctif, je te dirais, parce que quand tu sais, j'ai une conférence qui s'appelle les 4 styles de personnalité, puis ce que je dis aux gens, c'est que si tu veux réussir en communication ou convaincre, persuader quelqu'un, c'est de lui parler selon son style de personnalité plutôt que le tien. Fait que 3 fois sur 4, quand tu rencontres quelqu'un, s'il y a les bleus, les rouges, les jaunes, les verts, là, on n'a pas le temps d'aller là-dedans, mais on va s'adapter. Fait que quelqu'un comme toi qui est un peu plus jaune, ben tu vas t'adapter. C'est quelqu'un qui est plus bon vivant, comme tu disais tantôt. Moi, j'ai pas de notes, j'arrive pas préparé. préparé, c'était plus un créatif. Fait que tu vas plus t'adapter à son style de personnalité qu'un bleu qui est cartésien, qui est plus un comptable un peu, là, qui lui veut des statistiques, il veut des chiffres, il veut des preuves. Alors, selon les styles de personnalité, on va adapter notre langage. Fait que aujourd'hui, je te dirais que je le fais un peu de façon inconsciemment, mais ça m'a beaucoup aidé plus jeune parce que je comprenais pas les gens. Je comprenais pas pourquoi ils agissaient comme ils agissaient. Ben, les gens agissent comment ils sont. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste de faire preuve un peu d'adaptabilité quand on s'adresse aux autres.
Puis pour un entrepreneur, c'est important de connaître les diverses personnalités qui sont devant nous. Hey, je termine avec ça, parce que tu m'as parlé d'un comptable, ça m'a heurté un peu. Dans une salle de 100 personnes, est-ce que tu sais qui est le seul comptable dans la salle?
Non, faudrait que je leur parle à tous et chacun pour le savoir, là, mais les styles de personnalité, rapidement, là, il y a à peu près 14 % des gens qui sont des bleus dans la société.
Oui, mais tu n'as pas besoin, Patrick, de le trouver dans la salle. C'est qui le comptable? Il va venir te le dire.
Il va te...
Salut, Patrick.
Merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde.
Un bon vendredi à toi. On était avec Patrick Leroux. Il est conférencier. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Il est extrêmement pertinent. Si vous êtes chef d'entreprise et vous aimeriez avoir un Patrick Leroux dans votre entreprise pour une conférence, c'est patrickleroux.com. Je vous souhaite de passer une super de belle soirée, un excellent week-end, puis on se reparle sans faute lundi, 11 h, pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye-bye.